Je lis les pages d'un livre.
Les dieux des petits riens.
Le monde est alors celui de ce livre.
Nabokov.
Le monde est dans le livre.
100 ans de solitude.
Le monde est le livre.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Camille Geoffrey.
Ayane avait le sentiment que le monde demeurait privé de lumière, que les ténèbres s'accrochaient au ciel. Pas uniquement parce que la jeune femme n'arrivait pas à oublier la nuit où des hommes étaient venus, armés de leurs fusils, de leurs rêves viciés, pour faire vivre un cauchemar au peuple d'Ekou. Elle avait vu le jour dans ce village situé au sud de Sombé, la capitale économique du Mboassou. Après des années passées à l'étranger, elle y était revenue pour de brèves vacances. Son arrivée avait coïncidé avec celle d'une armée inconnue, aux abords du village, qui s'était arrogé le droit d'empêcher les allées et venues de la population. Ayane, dont nul n'avait eu de nouvelles pendant des années, avait trouvé sa mère mourante. Mais ce retour au village, sans cesse repoussé à cause de la gêne qu'elle éprouvait depuis toujours au sein de la communauté, devait endeuiller ses jours de bien des façons.
Bonjour Léonora Miano.
Bonjour.
Nous venons donc d'entendre un extrait de votre nouveau roman qui s'intitule Les Aubes écarlates et qui est apparu aux éditions Plon. Où sommes-nous exactement ?
Nous sommes dans un pays imaginaire qui s'appelle le Mboassou. Mboassou en langue douala du Cameroun, ça veut dire chez nous. C'est un pays imaginaire qui pourrait être en fait toute l'Afrique centrale. C'est-à-dire que ça pourrait être un agrégat du Congo, des deux Congos, du Cameroun, du Centrafrique, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Tous ces pays qui ont une culture proche, une population essentiellement bantou.
Et pourquoi avoir choisi un lieu imaginaire ?
Alors pour deux raisons. Ça, c'est venu avec le premier roman de cette trilogie qui s'intitule « L'intérieur de la nuit ». D'abord, un espace imaginaire parce que j'aime bien que la fiction soit vraiment de la fiction, même si elle est très réaliste, pour pouvoir tout se permettre. Et en plus, « L'intérieur de la nuit » comportait une scène très très violente, particulièrement dérangeante, et il m'avait semblé à l'époque qu'il n'aurait pas été très très juste de situer cette scène dans un pays donné, un pays réellement existant, parce que ça aurait stigmatisé la population de ce pays-là. Alors que voilà, ce type de scène, on a pu les voir ailleurs aussi.
Alors, c'est vrai que Sombé et Mboassou sont des lieux imaginaires. Néanmoins, vous émaillez votre récit d'expression et de tradition camerounaise, votre pays d'origine. Donc, c'est cette terre natale qui a nourri le livre.
Écoutez, on est circonscrit à soi-même. Hein. Pour moi, le Cameroun me suffit pour dépeindre la réalité du monde. C'est la première image de l'humanité que j'ai vue. Donc, voilà, c'est toujours celle-là qui apparaît.
En même temps, quand on a quitté son pays, justement, est-ce qu'on n'en a pas une vision imaginaire ?
C'est pas parce qu'on quitte le pays qu'il vous quitte. Peut-être qu'il vous habite plus intensément. Je pense pas avoir une vision imaginaire du Cameroun. Et puis, le Mboassou n'est pas le Cameroun.
Pour vos fidèles lecteurs, c'est vrai que ce territoire et les personnages de ce livre ne leur sont pas inconnus, puisque, comme vous le disiez, vous les avez déjà fait vivre dans vos romans précédents. Et d'ailleurs, reprécisons donc que Les Aubes écarlates s'inscrit dans cette suite africaine, entre L'intérieur de la nuit, votre premier roman, et Contour du jour qui vient. Et pourtant, ce deuxième volet, chronologiquement, est publié après le troisième. Alors, je me demandais pourquoi. Est-ce parce que il avait été plus difficile à écrire que les autres ?
Non, pas du tout. Je les ai écrits vraiment à la suite les uns des autres. Et Les Aubes a vraiment été écrit après L'intérieur de la nuit. Quand je suis arrivée à la moitié du texte de Contour du jour qui vient, j'ai soumis les deux à mon éditeur en lui disant « Écoute, je ne sais pas lequel il va falloir faire sortir en premier parce que d'abord, on avait décidé que la trilogie serait conçue de manière à ce que les textes puissent être lus indépendamment les uns des autres. Et puis ensuite, j'avais été un petit peu, comment dire, échaudée par la vision qu'on avait pu avoir parfois de L'intérieur de la nuit. On l'avait lu comme une espèce de document sur l'Afrique alors que c'était un roman. Et j'avais très peur, au fond, que ça arrive aussi avec Les Aubes si je revenais avec voilà cette histoire où des enfants sont enrôlés dans une armée et qu'on me parle que de questions de société et pas de fiction.
Au début, nous menions mollement nos opérations.
Nous n'avions pas envie de donner des ordres à des villageois qui auraient pu être nos parents. Nous attendions qu'Esso et ses hommes fassent le boulot, nous contentant de rassembler le butin. Ça n'a pas duré. Dès le deuxième jour, à notre retour au campement, nous avons été punis. Deux hommes maintenaient l'un d'entre nous au sol. Esso venait ensuite le corriger. Il y allait à coups de pied, partout, sans mesurer sa force. Les plus âgés, Ebunbu, Eyala et moi, avions la plante des pieds brûlée avec les braises du foyer que nous avions allumée. C'est là que je me suis fait ces plaies qui n'ont jamais guéri. Ensuite, nous avons été privés de nourriture. Nous n'avions pas le droit de manger ce que nous avions refusé de voler. Et comme je te l'ai dit, il n'y avait rien à la chasser. Alors, nous avons pillé.
C'est un roman qui est au cœur d'une guerre fratricide presque, entre clans, entre villageois et rebelles, entre enfants et adultes. C'est un contexte d'une extrême violence physique et psychologique, où on ne sait plus d'ailleurs à un moment qui sont les bourreaux et qui sont les victimes, à commencer par Epa, donc ce garçon soldat enlevé à son peuple, transformé en machine de guerre. Il pille, il tue, il torture, et en fait c'est juste un enfant broyé par l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous le présenter davantage, Léonore Amiano, ce jeune Epa?
Epa, pour moi, est le personnage, parce qu'en fait, ce qui est compliqué avec ce roman, qui a l'air très très réaliste, c'est qu'il est complètement métaphorique, et que la violence qui est présentée là, comme d'ailleurs en général dans mes textes, ne doit pas être prise pour elle-même, mais pour ce qu'elle peut signifier. Je suis habitée depuis très très longtemps, parce que je suis née sur la côte du Cameroun, par des questions par des questions liées à la traite négrière et au silence qu'on fait sur ce sujet chez nous en Afrique. Et j'ai réfléchi beaucoup à la manière dont je pouvais aborder cette question sans que ce soit un ressassement du passé, sans montrer forcément, nécessairement, une représentation exacte de ce qu'ont vécu les gens à l'époque, c'est-à-dire d'écrire le fond de cale, la violence gratuite, l'effarement des personnes qui allaient un jour dans un bateau alors qu'elles ne savaient même pas ce que c'était, des gens qui ne savaient pas forcément nager, repulsés comme ça au-delà des mers. Et je me suis demandé ce qui, en Afrique aujourd'hui, pouvait ressembler le plus à ce basculement dans l'absurdité. Et pour moi, c'est l'expérience des enfants emmenés à la guerre. Donc, Epa est un de ces enfants. Il a été enrôlé de force avec ses frères, les petits villageois comme lui, dans une espèce de milice qui est emmenée par des malades, hein, des fous, qui expliquent qu'ils vont restaurer le continent africain dans son authenticité, ses limites précoloniales, et que donc ils ont besoin que tout le monde y participe. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment on me parle de guerre concernant ce roman, mais on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas vraiment de guerre. Il y a surtout des exactions commises, il y a surtout une grande absurdité de la violence, une grande gratuité de cette violence, parce que je pense que c'est ce que les gens ont vécu, et je les vois vraiment comme ces déportés de la traite, je les vois vraiment comme des enfants qu'on a arrachés à un environnement qu'ils connaissaient et qu'on a tout d'un coup précipité comme ça dans quelque chose qui ne pouvait pas avoir de sens pour eux, et où leur identité était effacée aux yeux d'autres qui leur ressemblaient pourtant. Parce que c'est ça, souvent, la difficulté pour aborder cette question de la traite négrière en Afrique, c'est qu'il y a eu des participations locales. Donc j'ai voulu écrire cette histoire en utilisant le décor de l'Afrique contemporaine, en utilisant des visages d'Africains contemporains pour figurer des choses qui ont pu se passer autrefois.
C'est vraiment des personnes tout simplement écrasées par un passé qui n'arrivent pas, pour l'instant en tout cas, à avancer.
Oui, je pense que les gens sont d'autant plus écrasés par le passé qu'il n'est pas analysé. et que donc le silence a ceci de mortifère que il engendre la répétition du tragique, hein, lorsque voilà, lorsqu'on n'en parle jamais, et vraiment c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup pour dire le moins localement en Afrique, hein, on en parle plus nous les Africains lorsqu'on est face à des Occidentaux, mais entre nous. Entre nous, est-ce qu'il nous arrive de dire, voilà, à cette époque-là, nos pays n'étaient pas des États, les choses se passaient entre tribus, il y avait des tribus qui commerçaient, donc qui allaient faire des captifs chez les autres, et il se trouve qu'aujourd'hui, ces tribus-là, bien souvent, font partie du même pays. Et comment on va s'en sortir si on se dit jamais ça ?
Heureusement, l'humain est parfois plus fort que tout.
Je l'espère.
Et par exemple, EPA a cette faculté de ne pas s'endurcir. Il est traumatisé par ce qu'il fait. Il réussit à s'enfuir. Je n'en dis pas trop, hein, Léonard Amiano, ne vous inquiétez pas. Et il est recueilli par Ayane, la fille de l'étrangère. Alors, en fait, c'est une jeune femme qui est née d'une union extra-conjugale, on va dire, qui a quitté son village, son pays, qui a traversé les frontières, qui a fait des études et qui revient. Qui revient sur place, qui est effarée elle aussi, qui est une marginale, elle aussi, qui a été exclue.
Absolument, absolument.
Est-ce que c'est un peu votre double, Léonora Amiano?
Ah non, pas du tout. On me pose souvent cette question. Pas du tout. J'ai pas du tout les problèmes d'identité qu'a le personnage d'Ayane, mais je connais beaucoup de gens qui sont comme ça. Et en fait, sa marginalité n'est pas due du tout au fait qu'elle ait voyagé. Elle est due au fait que ses parents étaient eux-mêmes des marginaux qui s'étaient dressés contre les traditions de leur clan. C'était un couple follement amoureux. Voilà, le papa avait décidé de n'avoir qu'une seule épouse parce que c'était vraiment la femme de sa vie. On lui a reproché de l'aimer trop, on lui a reproché de s'écarter des habitudes, des hommes de son clan. Et donc la famille a vécu comme ça un petit peu à l'écart de la communauté. Et Ayane, c'est là que sa sensibilité s'est forgée et qu'elle s'est toujours sentie un peu étrangère par rapport à des gens qui lui étaient pourtant proches. Et eux aussi l'ont perçue comme étrangère. Donc elle a décidé de rester en Afrique malgré tout pour essayer de comprendre, parce qu'elle a le sentiment que voilà, il y a quelque chose d'elle qui est là, quand elle, qui appartient à cet endroit-là résolument, définitivement, et qu'il faut qu'elle le saisisse.
C'est aussi une tragédie universelle dans la mesure où ce livre, même si effectivement il est ancré dans une terre, moi, j'y retrouvais tous les codes, par exemple, de la mythologie grecque. Enfin, quand je dis tout, quelques-uns en tout cas, je vais en citer. Le trio des frères assassins, ça fait évidemment penser à Cerbère, l'hydre à trois têtes. Il y a les nymphes, ces jeunes femmes-là qui courent dans la forêt nue. Il y a cette femme oracle qui est extraordinaire,
qui d'un seul coup
jette la lumière sur ces gens devenus aveugles, alors qu'on pense qu'elle est folle et pas du tout. C'est la raison qui surgit de ce corps magnifique, évidemment, les sacrifices d'enfants qui sont malheureusement le fil conducteur de toute une histoire. Finalement, c'est l'histoire du monde que vous nous racontez.
Mais c'est toujours l'histoire du monde. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule humanité. Alors, quand on parle de soi, on parle toujours des autres. Et ce que vous venez de citer, ce sont simplement des archétypes qui se retrouvent dans toutes nos cultures, mais nous l'avons oublié. Hein, que nous avons un soubassement commun très très fort, et que ce n'est pas parce que quelquefois la surface diffère que nous sommes profondément, fondamentalement différents. Moi, je ne crois pas à ça. Ça fait presque 20 ans que je vis en France, et depuis que je suis là, je n'ai pas rencontré des profils humains tellement différents de ceux que je connaissais au Cameroun. Je rencontre simplement des gens qui vivent selon des codes différents, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ben, ce sont les mêmes êtres humains.
Le pouvoir des sorciers ne fut d'aucun recours. Pourtant, ils commandaient aux éléments. Pourtant, ils plantaient la folie dans les esprits. Pourtant, ils parcouraient le monde à tire-d'aile. Pourtant, ils faisaient se dresser les morts. Pourtant, ils nourrissaient la famée dans son sommeil. Pourtant, ils détenaient la clé des mondes parallèles. Pourtant, ils se changeaient en lion. En panthère, ils ne purent rien.
On n'a pas à parler évidemment de tous les autres personnages de ce livre. Aïda, oui, l'européenne que à la beaucoup. Retraite, qui a changé de nationalité pour oui. venir s'installer dans ce pays, pour ouvrir cet espace qui accueille les enfants abandonnés.
Oui, ça existe, ces profils-là. J'en ai dans ma famille. Et on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe vraiment. Il y a des gens qui... Vous savez, on peut naître quelque part et se sentir d'ailleurs. Vous naissez dans un endroit et puis un jour, vous faites un voyage. Vous découvrez un autre espace qui vous semble, voilà, être plus proche de vous intimement et vous restez là, c'est ce qu'elle a fait, et même si ce n'est pas toujours facile. Et j'aime aussi penser que Aïda, puisqu'on parlait tout à l'heure de traite négrière, si on se replace dans ce contexte ancien, ça pourrait être, je ne sais pas, une missionnaire anglaise combattant la traite. Pour moi, c'est de la résistance ce qu'elles font. Ça a l'air de pas grand chose.
Ah ben mais c'est énorme, c'est surtout très dangereux quand on voit le sort que vous réservez aux nonnes d'un couvent.
Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est de la résistance et c'est comme ça que la vie est pérennisée, protégée et pérennisée. Et je pense que ces femmes ont existé. Il n'est pas pensable qu'on ait enlevé des gens pendant des siècles et que personne ne se soit dressé. Et je pense que ceux qui se sont dressés, on le dit peu, mais c'est la vérité, avaient toutes les couleurs dès le départ. Même s'ils n'ont pas eu tout de suite gain de cause, les résistances étaient de partout. Ici même en France, il y a, je ne sais plus comment s'appelle ce village de Champagné, je pense, je ne sais plus dans quelle région c'était. Des gens qui avaient vu juste une gravure représentant un esclave enchaîné et qui avaient écrit au roi en disant que cette image leur était intolérable et qu'il fallait arrêter ça. Ils n'étaient jamais allés en Afrique, n'avaient jamais vu de noir en vrai. Mais ça les a frappés, ça les a heurtés profondément. Donc je pense qu'il faut... rendre justice à tout le monde. Voilà, c'est l'histoire de tous.
Encore un mot sur le titre, Sankofa Cry. Alors Sankofa, c'est un oiseau, n'est-ce pas? Quel est le symbole pour vous?
Cet oiseau qui appartient à la mythologie Akan. Le peuple Akan se trouve en Côte d'Ivoire ou au Ghana aujourd'hui. Cet oiseau symbolise la connaissance du passé pour pouvoir mieux aborder l'avenir. Je pense que c'est le travail fondamental que nous devons faire en Afrique avant même de nous occuper des questions d'économie. Il faut s'occuper de ce qui nous permettra à nous de regagner une meilleure estime de nous-mêmes.
Sankofa, je crois que c'est aussi une chanson.
Oui,
de même
oui.
que vous citez une petite cantate.
Oui, de ma mère, on écoutait ça à la maison.
Alors, la musique est importante, hein, je crois, pour vous,
oui, Léonora
Miano. Quel a été son rôle ici dans l'écriture des Aubes écarlates?
J'utilise toujours la musique pour structurer le roman, même si ce n'est pas très apparent et pas très intéressant pour le lecteur. J'ai conçu les personnages comme des archétypes, certes, mais surtout comme des instruments. Au début, je voulais que ce soit un blues dont Tepa aurait été le chanteur. Et les autres parties du roman, celles qui sont racontées à la troisième personne, auraient figuré le jeu de l'orchestre. Et c'était très complexe pour les lecteurs. J'ai quand même gardé mon idée, mais j'ai resserré un peu la structure. Donc le monologue des pas est pour moi une espèce de chorus. Les autres personnages restent des instruments, mais au lecteur de décider si Ala et Poupa seraient plutôt un batteur et Ayane une basse. Voilà, c'est ce que je dirais moi, que c'est plutôt une section rythmique, ces deux femmes. Et puis après, c'est un peu ce qu'on veut. J'utilise beaucoup les motifs de la polyphonie, de la répétition qui sont présents en jazz. On peut pas tout utiliser parce qu'on ne peut pas faire de transposition exacte, mais voilà, on peut prendre quelques éléments comme ça et ensuite travailler sur le phrasé. Le phrasé des pas n'est pas exactement le même que celui qu'on trouve dans le reste du roman. C'était important, mais bon, ça ne saute pas toujours aux yeux du lecteur qui est emporté par l'histoire, et c'est très bien
il
comme
vaut
ça.
Mieux pas que ça se
voilà,
voit,
c'est des
il faut
histoires de théoriciens.
Vous êtes musicienne vous-même?
J'ai chanté longtemps. Je vais peut-être m'y remettre, on me le demande beaucoup.
Une petite cantate du bout des doigts.
Merci beaucoup, Léonora Miano. Je
Merci
rappelle le titre de votre roman, Les Aubes écarlates, un livre qui est paru aux éditions Plomb. Ici se referme Littérature sans frontières, réalisée par Camille Geoffrey, avec à la technique Antonin Dulay. La semaine prochaine, vous retrouverez Sophie Écoué. Quant à moi, je serai à ce micro dans 15 jours. D'ici là, bonne lecture à tous. Au revoir.